comprise là-dedans, hein, voilà, on n'a pas le droit d'en parler, il faut rien en dire, etc. Et il n'y a pas d'union pour les personnes du même sexe. La BD montre que, enfin voilà, elle montre plutôt ce que c'est que d'être lesbienne dans un dans ce type de, enfin voilà, dans ce pays-là, entre le quotidien de groupes de meufs qui vont se parler, qui vont discuter, qui vont être amoureuses, qui vont vivre ensemble, qui vont faire des choses, et la violence du pays en fait, clairement, c'est une BD qui est plutôt chouchou, assez douce, avec un ton plutôt positif, enfin voilà, positif, c'est pas hyper radical, et ça montre aussi tous les freins en fait qui ont eu lieu par rapport à la Baltic Pride, qui en fait la mairie de Vilnius a essayé de faire que la Pride ne passe pas donc dans la rue Gediminas, qui est en fait notre sorte de rue de Béthune. À peu près, ils voulaient interdire que ça passe dans cette rue-là qui est un peu le cœur de ville. Et en fait, ça montre un peu tous les trucs juridiques qui se sont produits, etc. Pour y arriver, pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et puis ça montre aussi les contre-manifestants, la police qui est autour, les trucs un peu horribles. Et puis, bon voilà, la BD, elle a été écrite en 2012, je crois, 2012-2013. Et les choses, bon, bah, elles n'ont pas trop changé, en tout cas, aujourd'hui. Hein, voilà, il faut le savoir, voire limite, c'est un peu pire quand même aujourd'hui. Et pour le petit clin d'œil, il faut savoir que... Et ce dont les militants LGBT de Lituanie peuvent être assez fiers, c'est que Harvey Milk, en fait, vient d'une famille d'immigrés lituaniens. Donc, ils espèrent un peu pouvoir avoir la même réussite à un moment, quoi. Voilà. Donc pour la BD que je conseille, quoi, c'est assez chouette, c'est sympa comme BD à lire, quoi.
Ouais, c'est intéressant.
Ouais, et juste pour le petit lien avec un autre film sur la Pride dans les pays de l'Est, donc pour le coup, c'est le film La Parade, qui est un film serbe fait en 2012, et pour le coup, qui est un film aussi assez sympa. Alors bon, c'est pas très fin, c'est plein de clichés quand même, voilà. C'est reste une comédie, donc ils essayent un peu de faire de l'humour parfois, c'est un peu lourdeau, mais c'est plutôt sympa, et c'est sur un collectif LGBT qui veut mettre en place la première Pride en Serbie, et en fait, la police refuse de les protéger, alors qu'ils sont régulièrement agressés par des fachos, et en gros, voilà, des gens d'extrême droite, homophobes, etc. Et en fait, ils décident de faire appel à des anciens militaires, etc. C'est assez cool. Des gens qui sont un peu hors la loi et qui viennent en plus de plein de pays différents. Il y a des personnes qui viennent de Bosnie, il y a un Serbe, il y a un musulman, il y a tout ça. Et toutes ces personnes-là vont aider l'assaut LGBT à se défendre.
Et qui sont particulièrement homophobes au départ, oui, aussi, et machos. Mais c'est toutes les fins. C'est vrai que c'est par des clichés, mais toute l'évolution des personnages aussi sur ces discriminations, sur ces questions LGBT-là et LGBT-phobes est assez intéressante quand même, et traitée de manière assez, assez positive aussi dans le film.
Oui, même si ça reste... Donc ouais, non, si c'est chouette, non, mais oui.
Ça reste par des clichés, mais, mais c'est quand même pas mal, quoi. Le fond du discours est quand même pas mal.
Oui, tout à fait. Ah non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que je le conseille. Grave. Et puis bon, voilà. Enfin, ouais, et puis c'est très drôle. Donc, en tout cas, voilà, à conseiller sur les films, sur les Prides, voilà, à l'Est.
Et du coup, juste en passant, dans le même genre, on m'a montré, des amis albanais m'ont montré un documentaire que vous pouvez trouver sur, je crois, Dailymotion, sur Vice, V-I-C-E. Là, donc à la base, c'est un journal et ils font des reportages vidéo. Et là, ils ont fait un documentaire d'environ une heure sur les questions LGBT en Albanie, qui est aussi très homophobe comme pays. Et du coup, la Pride, qui est assez particulière parce qu'ils la font à vélo là-bas. Donc, c'est une manière comme une autre de déjouer les agressions potentielles. Et bon, c'est assez beau de voir du coup tous ces drapeaux arc-en-ciel. À vélo. Enfin, là, je vous conseille le documentaire. Vous tapez Albanie Vice et vous trouverez. On mettra en lien.
Cool. Plein de références qui ont l'air trop chouettes. Moi, j'en connais aucune d'entre elles. Donc, ça va me faire de la lecture et de du visionnage pour cette semaine. Eh bien, on vous a assez bombardé d'informations et je pense que là, vous allez pouvoir vous reposer en écoutant Cocaine Love de Jeff Barbara. C'est un artiste queer trop chouette. Voilà. À tout à l'heure.
Kids.
J'enrage le courage en intraveineuse.
Yes, donc là, cette fois-ci, c'est les revendications. C'est de ça qu'on va vous parler. Et bah, Jill, tu peux commencer tout de suite. Tu vas nous parler de la PMA.
Oui, alors du coup, les revendications cette année au niveau de d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est un mot d'ordre qui a été repris a priori par toutes les prides de France. Moi, je voulais vous parler de la PMA parce que SOS Homophobie. Et une quarantaine d'autres associations, d'ailleurs, ont marqué le coup le samedi 28 à Paris. Je crois que c'était vers 17h, ils ont fait une espèce d'action. En fait, c'était pour la fête des mères. Et du coup, ils étaient là, bah oui, tiens, la fête des mères, parlons-en. Bah, et puis, on pourrait toujours parler du fait qu'on attend toujours la légalisation de la PMA pour les femmes célibataires et les couples lesbiens. Et voilà, donc c'est fantastique. Alors, il y a eu une réponse, de Marisol Touraine qui a dit que ça allait faire partie des propositions de campagne de 2017.
Du ça faisait PS. Pas déjà partie des campagnes de 2012.
Eh si, oh. Et si, mais c'est marrant, il y a des choses comme ça qui tombent à l'as.
Et puis qui reviennent, 5 ans après, on ne sait pas pourquoi.
Voilà, donc grand bonheur, sachant que nous, à Lille, on voit bien, on sait très bien qu'en Belgique, il n'y a presque plus plus de la moitié, genre au moins 60% des demandes de PMA qui sont faites par des femmes françaises.
En Espagne aussi,
dans les hôpitaux en Belgique.
Ouais, mais ça a un coût en plus.
Enfin, et voilà, ça a un coût extrêmement élevé, évidemment. Voilà, ça, alors évidemment. Que la PMA pour les couples hétéros en France est remboursé.
C'est ça, prise en charge. Il y avait un super slogan d'ailleurs à la Pride hier à Lille, le 49-3 pour la PMA. Ouh. On peut essayer.
C'est clair. Ça serait bien. Ça sera bon, bien de se débarrasser.
C'est peut-être une idée à leur donner pour 2017, non?
Pas bête.
Ah, mais il faudrait qu'on garde Valls, il était pas mal sur le 49-3, faudrait qu'on garde Valls aussi. Ouais, alors,
ça va peut-être me poser un problème idéologique.
C'est ça.
Sinon, il y a un gros truc quand même récemment qui est passé pour... en lien avec le droit des personnes trans, c'est un peu compliqué parce que c'est justement des questions de droit. Donc il faut essayer de recouper les informations, pas que aller sur lemonde.fr et puis aller aussi sur YAG pour avoir des points de vue, on va dire, un peu plus orientés, parce que oui, on prend parti. Donc en fait, les associations, en gros, bon, je résume, il y a eu 3 amendements qui ont été passés récemment, qui ont été votés à l'Assemblée nationale. Je crois que c'était en mai dernier, donc vraiment très récent.
Il y a une semaine ou deux, quoi, max.
Voilà. Donc, qui est le résultat, évidemment, pas besoin de dire, mais quand même, de la pression des associations trans, hein, quand même. Il faut le rappeler que si ça bouge en haut, c'est que ça milite en bas. Et,
depuis longtemps.
Depuis longtemps. Mmh. Et donc, il y a... Ouais, depuis longtemps, ouais, comme tu dis. Et donc, ces amendements et hyper déçus les assos, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, quand on regarde un peu plus en surface, en fait, les personnes qui ont... Enfin, les députés, PS, Édouard Binet et tout ça, ils disent non, mais c'est super, c'est une avancée, tout ça. Alors, leur point de vue. Donc, leur point de vue, c'est une avancée. Pourquoi ? Parce que, en gros, l'idée, ça serait de faciliter le changement d'état civil pour les personnes trans. Faciliter le changement d'état civil et démédicaliser le parcours. En réalité, il n'en est rien, c'est tout le contraire. Je vais essayer de pas y passer 3 heures, du coup je vais prendre directement une analyse critique orientée politique, enfin voilà, tout simplement ce qui se cache derrière les beaux discours. Donc en gros, ce qui a été fait, c'est que ça a complètement certains parlent de légalisation de la transphobie, dans le sens où en gros avant c'était pas écrit dans le texte qu'il fallait on montre que la personne considère appartenir de manière sincère et continue au sexe opposé à celui mentionné sur son état civil. Donc avant c'était ce que les juges demandaient, mais en fait ça n'était pas légalisé, quoi. Et en fait là ils ont dit, en gros c'est ce qu'ils ont fait, quoi. Donc bon, super. Ensuite donc ça judiciarise davantage, hein, ça, parce que au lieu de passer devant un procureur, enfin un officier de justice, enfin bref, tout ça c'est un peu compliqué, ils vont passer devant un juge. Et donc en gros, ça renforce clairement la possession d'État. Hein. Le dernier truc, c'est en gros ce qu'ils appellent la démédicalisation. En fait, ça, c'est en gros, t'es pas obligé de montrer que t'as eu des traitements hormonaux, pour pouvoir changer d'état civil. Mais... en fait, il reste un critère d'appréciation donné en fait au psy et ça et au juge à la fin. Donc en fait, ça revient au même. Enfin bon, bref. Donc en gros, certains considèrent, enfin les assos pour certaines considèrent que c'est même un recul. Donc bon, on en est là. C'est vraiment la merde. Et tout simplement. Je rappelle que nos modèles, hein, c'est l'Argentine et la Colombie qui, eux, se satisfont d'une simple déclaration. Il n'y a pas besoin de prouver par A plus B que... Alors, il y a des trucs complètement farfelus, hein, dans ensuite prouver que tu appartiens à un genre, que tu te sens d'un genre. C'est absurde de dire en tant que féministe, ça n'a pas de sens. Enfin, on peut pas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver. Je veux dire, c'est intangible. Donc, bref. Voilà, je voulais pas y passer trop de temps. J'espère que j'ai été assez claire.
Ça a été, ouais. Merci. Ouais. Merci, Suze.
Ok.
Mais c'était vraiment pas évident. Hein. Ouais, on pourra remettre le message d'Act Up aussi, qui a fait que du coup, tu m'avais envoyé, Loïs, c'était Act Up. Ouais. C'était assez clair, par contre, du coup. On pourra peut-être remettre ça sur le site de Jean Rage pour expliciter.
D'accord. Ok.
De toute façon, les politiques, quand ils savent pas trop, il renvoie au droit et donc au juridique, comme l'adoption. Enfin, je veux dire, quand le mariage est passé, l'adoption n'est pas passée. Donc, on a fait un mariage particulier pour les personnes LGBT, c'est super. Et c'est renvoyé devant la Cour constitutionnelle parce qu'ils ne savent pas, ils ne prennent pas position. Et du coup, c'est renvoyé devant la justice qui, elle, doit trancher.
Et les médecins.
Et les médecins, ouais, c'était la suite aussi. C'est où ça se retourne vers le médical ou ça se retourne vers le juridique.
Oui, comme, enfin voilà, il faut toujours qu'il y ait l'expert qui valide et qui tamponne, quoi. C'est
insupportable.
Ouais. Et la troisième chose sur laquelle, en tout cas, sur les prides, sur les revendications, il y avait aussi la question de la GPA, en tout cas, questionner, réfléchir autour de ce sujet-là. C'est vrai qu'on a eu, enfin voilà, voilà, on va pas faire tout un truc sur la GPA là, on va le faire court, mais c'était en tout cas l'idée de pas avoir une vision monolithique du sujet, quoi, de se dire oui, on sait qu'il y a des femmes qui sont exploitées en Inde et qui peuvent pas sortir et que en fait voilà, on les force à voilà avoir des enfants pour les autres, en tout cas elles sont très peu rémunérées, etc., et donc c'est de l'exploitation totalement, enfin voilà, néocoloniale, etc. Après, il y a aussi des personnes qui se proposent et qui, dans un droit construit, se proposent gratuitement de porter l'enfant pour une personne et où ça peut très bien se passer aussi, en fait. Et voilà, donc je pense que juste se dire, ben, la GPA, en tout cas, la questionner, y réfléchir ensemble et se poser la question dans la société, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant, quoi.
Ouais, puis pas de rester sur la manifestation de la Manif pour tous qui manifeste contre la GPA le jour de l'abolition de l'esclavage.
Ouais,
ouais, qui est juste absolument terrible.
C'était juste affreux, quoi. C'est ça. Y a pas de mots, tu vois le truc passer, c'est une blague.
Ah non, ils s'arrêtent pas là.
Et les militants qui ne... Parce qu'en plus, ils ont été avec... Enfin, sur le même lieu que les militants... Enfin, que les personnes qui étaient là pour la journée de l'abolition de l'esclavage.
Pour commémorer, ouais.
Pour commémorer, ouais. Et la Manif pour tous était là...
au même endroit.
Au même endroit, avec des slogans, enfin, chacun des deux côtés. Et...
C'est horrible.
Ah, c'est une prise de... Ouais, c'est une prise d'otage... Un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'ils disent en plus. Enfin,
ouais, puis c'est violent, quoi. Enfin,
ouais, c'est ultra violent, ouais.
Mais d'ailleurs, ouais, mais juste pour petit point aussi là-dessus, sur nos amis. Enfin voilà, parce qu'il y a eu donc ce truc contre la GPA, et puis il y a eu aussi là un mouvement le 4 à Paris des survivants contre l'IVG pour le coup. Donc ils ne s'arrêtent pas là.
Ah, là
voilà. Donc c'est un peu la fête en ce moment. Donc je pense que ces revendications-là, elles ont du sens et qu'il ne faut pas s'arrêter de lutter, quoi.
Mmh. Tout à fait.
C'est clair. Gilles, est-ce que tu veux nous parler de Pau juste avant qu'on le livre de Rossi Allison?
Mais totalement. Avec grand, grand plaisir. Alors. Déjà, pour la petite histoire, Pau, c'est un livre qui a été édité en français il y a plus de 10 ans et qui était épuisé. Donc, c'était devenu un livre rare, traduit en français. Et il faut remercier les éditions Cambourakis qui ont décidé de rééditer ce livre absolument précieux. Et en plus, avec des textes, 7 textes inédits en français. Donc, c'est à la collection Sorcières des éditions Cambourakis. Et donc, Pau, c'est à propos de sexe, de classe et de littérature. Alors, Dorothy Allison, c'est une activiste féministe lesbienne radicale depuis les années 70. Elle a connu le succès avec des romans, dont notamment l'histoire de Bone et Retour à Cairo, que je n'ai hélas pas lu, mais je lirai sûrement un jour. En 94, elle a publié Pau, qui est un recueil d'essais. Et elle y parle de son enfance, d'inceste, de lesbophobie. Elle raconte son engagement féministe, sa sexualité. Les sex wars des années 80. Elle partage ses réflexions sur la littérature, comment écrire l'extrême misère sociale, comment écrire sur le sexe. Voilà, donc moi, je l'ai lu, j'ai adoré, et du coup, j'ai fait une petite chronique pour vous parler de ce livre. Alors, donc ce livre, c'est une succession de textes qui a complètement chamboulé ma vision du lesbianisme radical états-unien. Bon, je n'avais pas lu grand-chose avant, à part Judith Butler et Audre Lorde, alors forcément... C'était bien de pouvoir lire ça. Et puis après, les livres théoriques en anglais, c'est pas évident non plus. Donc j'étais contente de trouver ce qu'on m'ait prêté. Merci cette amie de Saint-Denis qui m'a prêté Pau pour la première fois. Et voilà. Donc en gros, c'est penser, vivre en tant que lesbienne féministe radicale dans les années 80. Réfléchir sur la visibilité. Elle écrit aussi sur sa famille, pauvre blanche de Caroline du Sud. Le genre de famille où les filles sont enceintes avant leur 16e anniversaire, comme l'a été la mère de Dorothy Allison pour Dorothy. Où on te classe parmi les « ils ». Ne joue pas avec elles, je ne veux pas que tu leur parles. Ma famille et moi, nous avons toujours été « ils ». Qui suis-je ? Me demandais-je. qui sont mes semblables. Nous mourons si facilement, nous disparaissons si sûrement, nous, ils, les pauvres et les homosexuels. Elle met en lumière une réalité que je ne connais pas, que je n'ai pas vécue. Elle parle de la difficulté d'être féministe radicale et lesbienne et d'aimer sa famille, pauvre. Elle parle de la non-représentation dans l'imaginaire collectif de son passé, de son vécu, de sa famille. La deuxième chose qui m'a donné très, qui m'a enthousiasmée, c'est ces textes qui m'ont donné envie d'écrire. Ils m'ont donné un sentiment d'urgence. Il nous faut écrire, il nous faut donner à lire ce qu'on ne lit pas encore dans les livres. Ces mots donnent envie de dévorer la littérature, de se la réapproprier, de faire lire ses écrits, de les lire à haute voix, de les crier. À propos de son métier de professeur de littérature dans ses classes d'écriture, Dorothy Allison nous parle de, nous explique. De temps en temps, une de mes étudiantes me demande « Pourquoi n'y a-t-il pas de grands romans littéraires ?» Je ne leur réponds pas qu'ils se trompent. Je ne leur dis pas que combien de grandes écrivaines dans l'histoire étaient des lesbiennes. Ils et elles le savent, comme moi, qu'une auteure lesbienne n'écrit pas nécessairement un roman lesbien. Le plus souvent, je leur dis simplement que je ne suis pas de leur avis et je donne une liste de textes que je considère comme étant de bons textes lesbiens. J'ai remarqué que dès que je cite une histoire très belle écrite par une lesbienne, il y a toujours quelqu'une pour discuter de la légitimité lesbienne de cette écrivaine. Je ne participe plus à ces débats stériles. Je sais qu'en tant que lesbienne, j'ai parfaitement le droit d'identifier un texte comme étant lesbien sans me soucier que l'académie ou les théoriciennes politiques contemporaines soient de mon avis. Et alors, la dernière chose dans son livre qui était fort, qui m'a beaucoup inspirée et que j'ai beaucoup admirée, c'est, moi je suis plutôt une lesbienne, je me situe plutôt comme pro-sexe et comme Dorothy Allison, et elle explore avec passion ses questions, elle raconte ces épisodes de sa vie sexuelle, du genre de ceux qui te font mouiller ta culotte alors que tu te trouves dans une voiture d'un inconnu covoitureur. Ça donne envie de mettre en scène de manière réaliste ces récits, de se jeter sur les moteurs de recherche en ligne pour trouver tous les livres de cul érotiques LGBT qu'elle cite. Cette visibilité donne surtout envie de continuer à être soi, à aimer, à jouir et à expérimenter. Et donc je vous livre un petit extrait sur cette question-là. Je le pratique autant que je peux, aussi vite que je peux, cet acte sacré. Je leur lèche le cou sur Market Street. Je les fiste aux toilettes du deuxième étage chez Amelia. Dans une cabine au box, sous la faible lumière murale, me relevant de sa chatte un instant avant que son visage avide ne s'illumine. Je l'ai attaché contre une rambarde dans un garage de Howard Street. Je l'ai laissé rire et se tortiller pendant que je titillais son clitoris. Puis j'ai rempli sa bouche de mes doigts humides et je l'ai frotté contre l'os de ma hanche jusqu'à ce qu'elle rugisse. Nous avons rugi ensemble. Partout où je vais, le parfum glissant de la sueur et de l'excitation est dans l'air. Si puissant qu'il pourrait être le mien, ou celui des femmes que je suis en train de suivre, de celles qui me suivent. Elles me comprennent autant que je les comprends. J'ai dégrafé leurs jeans au Powerhouse, mis mon talon entre leurs jambes au Café Broadway, ouvert jusqu'en bas leurs chemises au Just Desserts, et enfoncé du raisin sans pépin à l'intérieur de leurs pantalons au Patio Café. L'acte sacré du sexe, mon sexe, accompli en votre nom, pour la seule, la meilleure raison, parce qu'on en a envie.
Oh, ça s'est mouillé la culotte.
Voilà.
Bah, ok. Donc, le temps qu'on reprenne notre souffle, on vous laisse avec Alien sans, pour la chanson Sembaka.
hear that some back, some back, hear that some back, hear that some back.
Je suis dans la technique aujourd'hui, ça gère, comme vous voyez. C'est...
Attends, je fais le retour.
Je ne suis pas du tout sortie hier soir. Donc, Annaëlle, je crois que tu vas nous parler du kit cartable de SOS Homophobie.
Alors, rapidement, parce qu'on a deux chroniques encore où ça servira de conclusion. On a une dizaine de minutes.
Ouais.
Alors, effectivement, rapidement, SOS Homophobie, en fait, le jour de la journée de lutte contre la lesbophobie, la gayphobie, la biphobie et la transphobie, qui était en mai, je ne sais plus exactement quand, mais il y a 15 jours ou 2 semaines et demie, ils ont sorti ce qu'ils ont appelé un kit cartable. Donc en fait, c'est un outil pédagogique à destination des enseignants et des futurs enseignants pour pouvoir aborder et lutter toutes les discriminations LGBT et LGBT-phobes au collège et au lycée, avec les élèves en fait. Donc j'ai trouvé ça intéressant, et puis comme c'était la Pride hier, ça permettait de faire un lien aussi avec ce document. Donc c'est un document, on peut le trouver en PDF sur internet d'une quarantaine de pages, et c'est introduit parce que SOS Homophobie fait une petite introduction en disant qu'il y a près d'un million d'élèves qui peuvent être concernés directement ou indirectement par l'homophobie et la transphobie, et que les enseignants et les professionnels de l'éducation, et d'éducation nationale en particulier, restent trop souvent démunis pour aborder cette question. Donc SOS Homophobie, il fait aussi des immersions en milieu scolaire pour venir discuter... Des interventions, oui, j'ai dit des immersions, pardon, merci. Des interventions en milieu scolaire, donc avec des élèves pour discuter des discriminations ou des questions LGBT et LGBT-phobes. Donc ça s'inscrit aussi dans ces interventions-là, ce petit guide. Et donc en fait, face à cette situation, SOS Homophobie a réalisé ce kit pédagogique avec l'ambition dans les collèges et les lycées de donner à chacun et chacune les outils nécessaires pour faire face aux violences dont sont victimes les jeunes lesbiennes, gays, bi et trans, et de sensibiliser les plus jeunes à la lutte contre les LGBT-phobies. Donc il y a une suite à cette publication de ce kit. Ce sera suivi de la mise en ligne sur le site internet de SOS Homophobie, www.sos-homophobie.org, de propositions de séquences pédagogiques dans différentes disciplines. Et donc ça permet aussi aux jeunes LGBT et aux enfants de couples homoparentaux de trouver toute leur place à l'école et de réussir leur scolarité. Donc dans cet outil pédagogique, il y a deux parties, en gros. Une première partie qui revient sur la connaissance des LGBT-phobies, donc avec la définition de ce que sont les LGBT-phobies, un état des lieux des actes ou des violences LGBT-phobes, trois exemples de manifestations LGBT-phobes, insultes, harcèlement, discrimination, donc ça revient dessus, un lien, enfin une partie sur LGBT-phobie et sexisme, et un rappel à la loi dans cette première partie, donc ce que dit la loi sur les discriminations LGBT. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est plus pratique, qui permet de lutter contre les LGBT-phobies à l'école. Donc ça commence sur un cadre légal. Et il y a aussi toute une partie sur faire face aux idées reçues. Donc j'en ai choisi quelques-unes. Par exemple, il y a plein de citations, de clichés un peu autour des personnes LGBT. Par exemple, l'homosexualité est un choix, c'est quelque chose d'anormal, quelque chose de contre-nature, une question qui revient, qui fait l'homme, qui fait la femme. Enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, qui sont déconstruites par des petits paragraphes explicatifs à chaque fois. Donc, c'est assez intéressant. Alors, c'est pas que sur les homosexuels. Il y a aussi les bis sont volages, être bi, c'est un passage avant de choisir sa vraie orientation sexuelle. Des choses sympathiques comme ça. Et des trucs sur les personnes trans aussi. Être trans, c'est avoir changé de sexe, par exemple. Donc, ils reviennent sur tous ces stéréotypes-là et ces préjugés. Ils les déconstruisent. Ensuite, il y a... Voilà, il y a comment aborder les LGBT-phobies dans sa discipline. Et donc, ils prennent l'exemple de l'histoire, l'histoire géo, toute la partie sur la mémoire, etc., et la Deuxième Guerre mondiale, quelques heures sur la déportation pour motif d'homosexualité, ce qui permet d'aborder ces questions-là en histoire. Et il y a aussi plein de documents ressources, des témoignages de personnel de l'éducation nationale qui ont assisté à des interventions en milieu scolaire de SOS homophobie. Il y a des fiches pédagogiques aussi. Alors, je vais citer juste un exemple. Pour un cours d'espagnol, par exemple, c'est de travailler sur... Il y a une vidéo qui est proposée en espagnol avec des jeunes espagnols qui parlent de discrimination LGBT qu'ils ont pu vivre. Voilà. Et donc, qui est aussi une vidéo qui partage aussi un message de respect et d'acceptation de la différence. Et donc, il y a tout ensuite une déconstruction de cette vidéo à destination des enseignants pour l'appliquer dans leurs cours. Un travail sur l'écoute, sur le discours qui est porté dans cette vidéo, une restitution du contenu à l'oral pour travailler la compréhension et l'expression, et aussi l'écriture d'un texte à partir de la vidéo. Donc voilà, donc le guide complet est à retrouver sur www.sos-homophobie.org.
Merci beaucoup, Annaëlle.
Tout pile.
Ouais, tout pile. Merci, bravo. Annaëlle. J'ai une toute petite question. Peut-être que c'est juste que j'ai pas fini, que j'ai pas suivi. Il est à destination de qui ce kit cartable ?
Des enseignants et des futurs enseignants. Ouais, c'est un outil pédagogique pour les enseignants.
Ouais, donc très bien, merci. Anaïs, est-ce que tu veux nous parler de l'orientation professionnelle sexuée ?
Alors oui, je vais faire un petit truc quand même. Alors, il s'avère qu'en soirée, une fois, j'ai eu une remarque d'un mec qui m'a dit « Ouais, mais toi, tu pourrais pas faire mon travail, t'es une femme. » Et je lui ai demandé pourquoi. Il a fait « Bah, la preuve, tu pourrais pas faire mon travail parce que dans mon entreprise, il y a aucune nana. Elles peuvent pas, elles veulent pas, elles sont pas capables. » Et moi, avec mon répondant, j'ai rien répondu sur le coup. Mais ce que j'aurais aimé lui dire, c'est hier soir, j'ai écouté une émission de radio sur France Culture qui avait comme invité Catherine Monod et qui nous parlait de Petite fille, l'apprentissage de la féminité. Et Catherine Monod, elle m'a dit qu'on avait à passer deux apprentissages invisibles, entre guillemets, quand t'étais une fille et un garçon. Quand t'es un garçon, c'est plus un apprentissage qui est lié à l'idéal de masculinité et donc qui te dirige vers la virilité. Et quand t'es une jeune femme, tu es plus dirigée vers la féminité. Et la féminité, pour elle, c'est tous les accessoires qu'on va mettre sur le corps, une façon de vivre, une façon de voir le monde. On entoure le corps de valeurs féminines, qui sont la douceur, l'harmonie, le soin des autres, l'empathie, la minutie et l'autodiscipline. Donc tous ces métiers, enfin tous ces caractéristiques vont mener les femmes à se diriger vers des métiers qui sont plus liés à la représentation et à l'esthétique, comme diététicienne, institutrice maternelle, aide familiale, secrétaire, aide-soignante, infirmière, personnelle. Et hôtesse de l'air, par exemple, qui sont les métiers les plus faits par les femmes. Et donc, du coup, ce que je voulais lui dire, c'est que moi, affranchie de cet apprentissage, dès mon plus jeune âge, je pense que, de façon naturelle, je me serais plus dirigée vers un métier qui est plus manuel, comme le sien. Et donc, en étant une femme, je suis tout à fait capable de faire son métier, qui est manuel.
Super.
Merci. Ouais. Et c'est quoi déjà son métier, tu peux rappeler ?
Alors, son métier, c'est qu'il travaille dans une usine à la chaîne. Et c'est, je ne sais pas si je peux dire le nom.
Bah, si
c'est Solac.
Ok.
Voilà, c'est un métier dans lequel on a beaucoup d'hommes et très, très peu de femmes.
Ok. Merci.
Super. Ouais. Bah ouais, c'est clair que l'orientation, c'est fou. Moi, j'ai bossé 3 mois en collège, là. On a fait les orientations. Pour ceux qui choisissent des orientations déjà professionnalisantes, les filles, c'est... comment ça s'appelle déjà?
Assistante maternelle.
Ouais, ces trucs-là.
Assistante de
soins de l'enfant et tout ça. Et puis, voilà.
C'est des métiers qui sont plus liés à l'esthétique, en fait, en réalité.
Ouais.
Enfin, je pense. Enfin, la représentation, je sais pas.
Esthétique, représentation et enfant aussi, ouais, tout ce qui est.
Prendre soin, le soin, le care, quoi.
Prendre soin des autres, tout ça.
Ouais, tout ce qui est soin et. Ouais. Soin et encore soin. Enfin, c'est pas médecin, quoi.
Ouais. Quoique, aujourd'hui, quand même, sur les. En tout cas, en médecine, on voit qu'il y a plus d'étudiantes que d'étudiantes et d'étudiants qu'elles.
On va quand même vers la parité, mais il y a quand même des
sauf au niveau
restent.
Des postes de responsabilité.
C'est ça, ouais. C'est ça, c'est qu'elles n'ont pas les mêmes postes. Ouais.
Ou des les chirurgiens, par c'est exemple, il n'y a quand même pas beaucoup de femmes non plus.
Enfin, c'est hyper compliqué. Ouais. Ouais. Mais il y avait des témoignages d'étudiantes en chirurgie qui disaient à quel point c'était compliqué d'être étudiante en chirurgie dans un monde de mecs aussi. Quoi.
C'est ça, et puis le sexisme au quotidien, etc. Mais c'était drôle, c'est qu'au moment où les filles, elles ont commencé à être plus nombreuses en médecine que les garçons, c'est pareil aussi pour la magistrature aujourd'hui, ils ont pensé à faire un numerus clausus en disant qu'il faut peut-être aussi qu'on instaure une parité, donc finalement qu'il y ait un certain nombre de filles, qu'après ça soit forcément des garçons, sans prendre en compte forcément les résultats aux examens.
Mais oui, bien sûr.
Voilà, ça a été évoqué quand même, hein.
Mais c'est ça en droit aussi. En droit aussi, ça fait ça.
Ah oui?
Ouais. J'ai mon coloc qui est en droit et qui m'a expliqué ce petit système.
C'est très sympathique, hein, voilà.
Et ça donnera lieu à une émission thématique sur travail et sexisme.
Ouais,
parce qu'il y a
qu'il
de quoi
y a
dire.
Du boulot, hein. Ouais. Parce qu'entre le sexisme dans le milieu du travail, l'orientation professionnelle qui est de toute façon biaisée, une fois ta carte d'identité. T'as des trajectoires hyper genrées quand même, professionnelles. Évidemment, c'est pas du tout... Enfin, après, heureusement, les gens obéissent pas forcément à la norme toujours.
De toute façon, ça fait partie de l'éducation et de la socialisation. Et donc, à partir du moment où c'est déconstruit à la maison et où ça peut ne pas être construit à l'école ou au collège, enfin à partir du collège et du lycée, tu peux t'en sortir, mais enfin toutes les petites filles qui veulent être coiffeuses.
Ouais, et puis enfin moi pour le coup ça a été un peu mon boulot à un moment de travailler avec les jeunes sur l'orientation professionnelle et d'essayer de favoriser l'ambition et l'élargissement des choix. Et il y avait aussi ce truc des filles, il y a un truc qui leur plaît donc ça peut pas être un métier. Les filles elles kiffaient les jeux vidéo et elles disaient ah ouais non c'est trop bien et tout, on en discutait, on était là mais en fait il y a du boulot là-dedans en fait, vous pourrez bien gagner votre vie etc. Ouais mais non mais je vais faire médecine, je vais prendre soin des gens, enfin voilà, ou bien je vais être infirmière, ou bien non mais j'aime bien les jeux vidéo mais je vais être coiffeuse. Et en fait c'est juste un truc de enfin voilà, de se dénigrer, de penser que c'est pas forcément un métier pour elle et de devoir être dans le soin des autres, c'est flippant quoi.
Et puis juste avant de conclure, cette question du travail loisir aussi, où si on prend du plaisir dans le travail, c'est pas un travail. Si en fait, plus tu kiffes et mieux tu travailles. Et cette question-là, elle est plus générale que la différence garçon-fille, mais ça se retrouve vachement aussi dans ce que tu disais.
Ouais, c'est clair. Carrément. Ouais, et puis là, je pense que c'est terminé. On vous a donné un petit avant-goût de ce que vous, peut-être, vous écouterez dans un mois. c'est un genre, je n'ai jamais très planifié 3 mois à l'avance. Hein. En général, ça se décide les semaines précédentes quand on s'organise bien.
C'est ça, on est pour la spontanéité.
Voilà. Mais on arrive aussi à tenir tout le conducteur, quand même.
Mais là, franchement, on a géré.
On a niveau timing. Mais c'est le high level.
Ouais, mais par contre, justement, ne nous
égarons pas.
Parce qu'on a quand même une chanson de fin à mettre. Moi, je voulais quand même dire, juste avant qu'on se quitte, qu'on a un site sur lequel vous pouvez aller, où il y a tous nos podcasts et tout ça, qui est le site de Jean Rage. Hein. Jean Rage, c'est sur Overblog. Et puis, une autre chose, c'est que j'ai oublié au début d'émission d'annoncer qu'en fait, Louise, eh ben, c'était sa première émission. Ouais. Et qu'elle est nouvelle à Jean Rage, et bienvenue et tout ça. Et c'est trop cool.
Ouais. C'était trop bien.
Ouais, on continue à avoir des nouvelles voix et des nouvelles personnes dans le collectif et dans génial. L'émission. C'est trop bien.
Ouais. Bon voilà, sur cette vague d'enthousiasme, je vous laisse avec Esperanza Spalding pour I Know You Know, c'est une chanson magnifique.
Et juste après, vous retrouvez les Entonnoirs à 15h.
You love.